Vous y êtes pour une heure de sous-marin tout au fond de l'eau, comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h, une heure d'actu qu'elle touche à la politique, à la vie étudiante ou associative, à l'économie, au sport ou à la culture. Et pour m'accompagner pendant cette heure en eau profonde, je salue Rémi. Salut Rémi.
Salut.
Avec la participation enregistrée d'Aminata qui serait à Cannes. En fin d'émission, vous retrouverez l'agenda de votre soirée et bien sûr la traditionnelle bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Bonsoir Florian Santino.
Bonsoir Tiffaine, bonsoir Rémi.
Vous êtes adjoint au nouveau maire d'Angers, chargé de la jeunesse et de la vie étudiante. Et jeune vous l'êtes, puisque vous êtes né en 1991. Vous êtes l'ancien secrétaire général des Jeunes Forces démocrates. Vous êtes conseiller national et départemental de l'UDI. Vous êtes ancien gérant d'un groupe immobilier. Vous étudiez le droit de l'immobilier et de la construction à Panthéon-Assas. Vous avez travaillé au cabinet du ministre de la Ville auprès de Maurice Leroy. Voilà pour votre parcours déjà long, je n'ai rien oublié.
Absolument rien.
Vous avez étudié à Angers avant de rejoindre Assas ?
J'ai fait mon collège et mon lycée sur Angers. Malheureusement, je n'ai pas trouvé pour la suite de mon parcours universitaire la formation que je recherchais sur le territoire angevin. Donc je me suis exilé quelque temps sur Paris. À mon grand regret, je reviens avec grand plaisir sur Angers depuis désormais 2 ans.
Qu'est-ce qui vous a poussé vers la politique, Florian Santino ?
Eh bien écoutez, la politique m'a tout d'abord un petit peu effrayé. Comme beaucoup de jeunes, je n'ai pas franchi le pas de la politique. Mes parents n'étaient pas du tout engagés dans le milieu politique. J'ai commencé, lorsque j'étais lycéen, dans le milieu associatif. J'ai créé une petite association avec de modestes moyens, avec quelques amis, qui s'appelait Démocratie Angevine, qui avait vocation d'accompagner et d'essayer de trouver des solutions pour les Angevins sur leur quotidien. On avait mis en place un système de cahiers de doléances. On venait avec nos tables dans la rue occuper l'espace public pour demander aux Angevins ce qu'ils souhaitaient améliorer, quelles étaient leurs idées, en étant convaincus que tous les Angevins pouvaient participer dans leur vie quotidienne à l'amélioration, en fin de compte, de la collectivité et des choix publics. Avec l'avenir et avec le temps qui s'est écoulé, j'ai rapidement pris connaissance que c'était pas forcément si simple que ça et que les bonnes intentions n'aboutissaient pas toujours. Et donc j'ai décidément de pouvoir directement prendre les décisions et de pouvoir directement mettre en place les propositions et les idées des Angevins. Donc je me suis tout naturellement orienté ensuite vers la politique en étant non plus passif mais en étant désormais acteur.
Et pourquoi avoir rejoint la liste de l'UMP Christophe Béchu alors que vous militez aux côtés de l'UDI ?
C'est très simple, les choses ont été claires. J'ai eu l'occasion de rencontrer Michel Piron, parlementaire et qui est le président de ma fédération, en lui expliquant les choix. J'ai décidé de soutenir mes convictions. Mes convictions étaient celles de l'humanisme, du centrisme. Je les reconnaissais dans le choix de la liste Christophe Béchu, qui est accompagné par le Modem, nos partenaires naturels pour l'alternative. Je ne les retrouvais pas sur la liste de Laurent Gérault. Et donc j'ai fait un choix qui était simple, qui était le choix des idées, non pas le choix de suivre un homme dans lequel je ne me reconnaissais pas.
Vous êtes donc désormais adjoint chargé de la jeunesse et de la vie étudiante. Vous avez eu un mois et demi pour découvrir ce poste rapidement en quelques mots. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs en quoi il consiste ?
Alors quelques mots, c'est compliqué parce que c'est assez difficile de pouvoir décrire l'intensité d'une journée lorsque l'on est élu. En quoi consiste la mission d'adjoint maire ? C'est tout simplement de pouvoir représenter les Angevins et de pouvoir prendre les décisions qui seront les meilleures dans leur vie quotidienne. En l'occurrence, je m'occupe des politiques jeunesse et de la vie étudiante, donc de prendre des décisions qui permettraient d'assurer une qualité de vie plus agréable pour l'ensemble des jeunes de notre territoire et pour l'ensemble des étudiants et apprentis qu'ils composent. Donc ça nécessite une connaissance, tout d'abord de l'administration, ce qui prend un peu de temps dans les premiers jours. Et puis on est accompagné par une équipe formidable, et je tiens à les remercier, qu'il s'agit de la mission jeunesse, du centre information jeunesse, qui est juste en face de la patinoire Allée du Hara, qui m'accompagne justement sur la construction de l'ensemble de ces dossiers. Il y a les élus, il y a les services, et tous ensemble, on essaye de mener une politique pour accompagner les Angevins dans leur quotidien.
Est-ce qu'il y a eu de bonnes ou de mauvaises surprises depuis votre prise de fonction ?
Comme dans toute vie, il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Je préfère me rappeler des bonnes surprises, de tous ces moments justement incroyables, le premier conseil municipal, la première fois que l'on s'assoit dans le siège où on prend pleinement conscience des responsabilités qui sont les nôtres, les rencontres avec les services, la première poignée de main en tant qu'élu, au contact des Angevins. Et puis forcément, il y a des moments qui sont plus compliqués parce que on prend connaissance de situations humaines qui sont difficiles sur notre vie. sur notre ville, et ça nécessite bien entendu de prendre des décisions qui sont pas forcément simples. Donc il y a un côté.
Lesquelles par exemple ?
Des situations de vie personnelle. Par exemple, j'ai le souvenir d'être allé au Haut-Saint-Aubin avec Stéphane Pabritz en charge du commerce et de découvrir un homme qui nous expliquait sa situation concernant son commerce qui était dans une mauvaise situation et qui allait être fermé avec des conséquences sur sa vie personnelle et sur sa vie familiale. Donc nécessairement, on reste pas insensible à ces moments-là. Et c'est le devoir d'un élu, à mon avis, justement, de pouvoir essayer d'apporter des solutions. Malheureusement, on ne peut pas faire des miracles et donc on est parfois confronté à des résultats inéluctables.
Est-ce que, Florian Santino, vous avez déjà eu le temps de rencontrer les acteurs de la vie étudiante, comme je pense par exemple à la FEDESA, au CROUS ou aux universités?
Alors il y a tout un travail de mise en place. Tout un travail de mise en place qui nécessite d'abord de prendre connaissance des dossiers avant de rencontrer les acteurs. Donc on prend le temps d'étudier l'ensemble des dossiers. Comme vous pouvez le voir, vous avez parlé de la FEDESA, je vais être amené prochainement, ils vont avoir leurs élections, j'ai cru comprendre, en interne, être amené à les rencontrer. Pour échanger avec eux sur leur projet Agorae, et l'ensemble des dynamiques qu'ils portent. J'ai eu l'occasion de rencontrer également les lycéens de Sainte-Marie Tech, donc de rencontrer un certain nombre d'acteurs. Cela se fait dans le temps. Il faut pas confondre vitesse et précipitation. J'étudie l'ensemble des dossiers dans un premier temps, et ensuite je rencontre les acteurs pour pouvoir leur apporter des réponses. Et bien entendu, tout ça se fait dans la concertation et dans l'écoute.
Dans le programme de Christophe Béchu, quand il n'était encore que candidat et pas encore maire, à la page jeunesse, il y avait 4 propositions, dont une portait spécifiquement, sur le quotidien des jeunes. C'était réfléchir à la possibilité de regrouper les activités nocturnes dans un lieu desservi par le tramway. Où est-ce qu'on en est dans ce projet de parc ?
Alors, c'est une proposition qui a fait beaucoup de débats pendant cette campagne. Ce qu'il est certain, c'est qu'il faut prendre d'abord le constat qui est le nôtre. Angers est une ville où il fait bon de faire la fête. Il est normal, quels que soient les âges, quels que soient les parcours, de se retrouver entre amis pour passer des moments de convivialité. On a le droit de s'amuser, mais on a également le devoir de respecter les riverains. Il y a une situation particulière dans notre ville. Nous avons 33 000 étudiants, un habitant sur deux qui a moins de 30 ans. Il est nécessaire de prendre des décisions pour pouvoir permettre la cohabitation entre tous les acteurs de la ville d'Angers. On a ce qu'on appelle la conférence de la vie nocturne avec Jeanne Robinson, qui est adjointe en charge de la sécurité et de la tranquillité publique. On anime une réflexion où les étudiants, bien entendu, et les jeunes, parce qu'il y a également les apprentis, il ne faut pas les oublier, on mène une réflexion avec l'ensemble des acteurs de la nuit pour essayer de trouver des solutions. Ça va prendre du temps, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, encore une fois, mais on est en train d'essayer de trouver, dans le dialogue et dans la concertation, des solutions. Une de ces solutions, c'est celle qui a été évoquée, justement, vous l'avez dit dans le programme, qui est de regrouper l'ensemble des activités qui peuvent poser un certain nombre de problèmes en termes de nuisances sonores à un endroit particulier de la ville qui serait desservi à proximité du tramway.
Mais cette concertation, elle se fait effectivement avec tous les acteurs de la vie étudiante, les apprentis compris, actuellement ?
Elle se fait, en tout cas, elle est lancée, puisqu'on a lancé depuis une semaine de nouveau la conférence de la vie nocturne. Donc ça doit se faire dans un cadre bien orienté, dans un cadre fixé, pour pas que le débat parte dans tous les sens. L'objectif est de trouver des solutions. Dans les hypothèses que nous étudions, il y a effectivement la possibilité de regrouper l'ensemble des activités nocturnes à un lieu dédié. L'objectif, il est double. Il y a un côté, tout d'abord, effectivement, de limiter les nuisances. Mais il y a un deuxième volet qui est tout aussi important et qu'on oublie, qui est le volet de la prévention. Dans une ville où il y a des jeunes, il y a forcément un certain nombre de jeunes qui, parfois, cherchent à atteindre et pousser les limites au-delà du raisonnable, avec des risques dangereux sur la consommation d'alcool, par exemple, sur la consommation de stupéfiants. L'objectif aujourd'hui, c'est de prévenir les jeunes sur quels sont ces risques.
Mais ça existe déjà, la prévention avec les noxambules, ces jeunes qui vont à la rencontre des autres jeunes dans la rue.
Effectivement, mais je pense qu'on peut faire encore davantage. On peut faire encore davantage parce qu'il suffit de regarder les chiffres de jeunes qui se retrouvent amenés à l'hôpital parce qu'ils ont consommé trop d'alcool. Il suffit de regarder les jeunes qui sont arrêtés parce qu'ils sont en état d'ébriété sur la voie publique. Il suffit de regarder ces chiffres pour voir que la prévention, effectivement, elle a lieu, mais que l'on doit faire encore davantage. Et c'est le rôle des collectivités, c'est le rôle de la mairie d'Angers, de porter encore davantage ce message de prévention, et c'est un devoir d'action pour éviter justement qu'on arrive à un certain nombre de drames, à des jeunes parfois qui prennent la voiture, qui prennent le volant, alors qu'ils ne sont pas en condition de pouvoir conduire et arriver à des drames humains. La prévention, on n'en fait jamais suffisamment.
Et concrètement, je suis désolée d'insister, mais c'est un sujet, je pense, qui intéresse les auditeurs.
On s'orienterait... Je comprends. Moi aussi, je suis jeune et je comprends bien entendu qu'il y a un intérêt particulier.
On s'orienterait vers quoi ? Vraiment un lieu fermé comment est-ce qu'on peut regrouper dans un seul lieu les activités nocturnes ?
Tiffaine, c'est le but de la concertation, c'est d'essayer justement d'y associer les enjeux. Si je vous dis, on a trouvé un lieu, un endroit, on a décidé que ça allait se mettre en place de telle manière, je vais pouvoir vous donner une réponse maintenant. Mais on n'aura pas fait de concertation. L'objectif, c'est de pouvoir trouver une solution en concertation avec les riverains, les enjeux, les étudiants, les apprentis, les jeunes, l'ensemble des acteurs de la nuit. Je ne peux pas vous donner une réponse maintenant alors que la concertation n'a pas encore eu lieu. Il faudra d'abord qu'on écoute les enjeux, qu'on prenne des décisions lorsqu'elles seront possibles. Et lorsque l'ensemble de ces décisions seront trouvées, on vous les présentera avec grand plaisir.
On attendra donc. Le reste des propositions de ce programme à l'époque donc, où Christophe Béchu n'était pas encore... élu maire, restait très ancré dans la politique budgétaire, économique, par exemple conserver les moyens pour les universités et les écoles, appuyer les pôles de compétitivité, encourager la création de réseaux d'anciens élèves. Est-ce que sincèrement vous pensez que ça peut suffire aux étudiants angevins qui veulent rester à Angers après leurs études à trouver un emploi ?
Ce dont je suis certain, c'est que si l'on ne fait rien, on va continuer à avoir des gens qui aiment cette ville, qui souhaiteraient pouvoir y passer une partie de leur vie, devoir partir parce qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir professionnel. Alors, je ne sais pas si ça sera suffisant. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut commencer. Et que ces propositions, elles sont claires, elles sont concrètes, elles ont déjà commencé à être étudiées pour être mises en place très prochainement. Jean-Pierre Bernheim, qui sera en charge au niveau de l'agglomération du développement économique, va s'occuper justement des bourses à entreprendre. Je suis convaincu, et le maire l'a mis en pratique, il y a des jeunes talents, on doit leur faire confiance. La collectivité est là pour les accompagner et l'entrepreneuriat des jeunes est une perspective d'avenir réjouissante pour une ville qui a un habitant sur deux qui a moins de 30 ans. On va utiliser toutes les pépites de notre territoire pour les valoriser d'une part et permettre de créer de l'emploi, créer du développement, créer de l'énergie et il n'y a aucune fatalité. Ce qui est certain, c'est qu'il faut des points de départ. Ces points de départ, nous les avons fixés pendant la campagne et que dès maintenant, nous sommes en train de les mettre en place.
Si certains étudiants ont la tête en vacances, pour d'autres, c'est déjà le casse-tête de la rentrée. À la fac, les frais d'inscription viennent d'augmenter. Ajoutez à cela les problèmes de logement. La pilule a du mal à passer chez les syndicats. Les étudiants, eux, s'organisent comme ils peuvent.
Plus 4,1%, c'est notre chiffre du jour et c'est le montant de l'augmentation du prix d'une rentrée étudiante. Ce sont d'abord les loyers qui pèsent le plus dans le budget, suivent ensuite les frais obligatoires, inscription universitaire, sécurité sociale et tickets de repas.
Les étudiants sont de plus en plus étranglés financièrement. Quelques chiffres viennent le montrer aujourd'hui. D'abord, la FAGE, la deuxième organisation étudiante, estime que le coût de la rentrée universitaire est en hausse de 2,6%. Ce coût se monte en moyenne à 2 435 €, une hausse de 50% en 10 ans.
Voilà, c'est la même ritournelle. À chaque rentrée, le coût de la vie étudiante augmente. Florian Santino, vous êtes chargé des jeunes et de la vie étudiante auprès du maire d'Angers. Quelles vous semblent être les priorités en termes de vie quotidienne des jeunes, étudiants ou non d'ailleurs ?
Vous l'avez justement très bien résumé. Le pouvoir d'achat des jeunes est une des principales préoccupations. Et pas uniquement des jeunes, parce que l'ensemble de la société connaît aujourd'hui un problème de pouvoir d'achat. C'est assez compliqué parce que la question est vaste. Le logement, l'emploi, la vie étudiante, la vie nocturne, le transport, la mobilité, il y a énormément de réflexions à avoir. Alors je ne sais pas par quelle réflexion vous souhaitez qu'on aborde le débat.
Eh bien, on peut commencer en termes de logement, par exemple, effectivement. Alors, certains candidats proposaient, par exemple, que la mairie se porte garant de cautionnaires.
La région le fait déjà. Il y a un dispositif qui existe. Il faudra éventuellement qu'on développe ce dispositif, mais le dispositif existe. Sur le logement, juste éventuellement un petit mot. On a un certain nombre de villes avec des situations différentes. Sur Angers, on n'a pas forcément un vrai problème de logement. On n'a pas de déficit de logement. Au contraire, on a des logements vides, on a 4000 logements vacants. Donc la problématique du logement, elle est peut-être sur le coût. Et encore, je trouve que le parc privé par rapport à d'autres villes comme Paris, Lyon, Marseille ou un certain nombre d'autres territoires, le coût du logement reste relativement abordable par rapport au parc privé.
Oui, on reste quand même sur des moyennes de 350-400 € au moins pour un studio.
Mais avec les aides justement ou en système de colocation, on arrive sur quelque chose qui reste abordable. Je dis bien abordable. Il y a également les cités universitaires qui sont nombreuses sur le territoire angevin. Par contre, il y a une nouvelle problématique. On a eu l'occasion tout à l'heure éventuellement d'en parler avant de rentrer dans ce studio. Mais il y a une problématique nouvelle qui se multiplie malheureusement. C'est les conditions de logement. Je le savais. Il y a un certain nombre d'autres jeunes le savent. Mais les conditions de logement, parfois, ne sont pas dignes pour loger des jeunes ou n'importe quel être humain, tout simplement. On a des logements qui sont insalubres. On a des logements indécents qui mettent parfois en cause la sécurité de leurs occupants. Le rôle d'un maire, le rôle des élus, c'est de protéger l'ensemble des jeunes et moins jeunes qui sont sur le territoire. On ne peut pas accepter que sur notre territoire, il y ait des marchands de sommeil, sans foi ni loi, qui s'enrichissent sur des populations les plus fragiles. Le vrai débat aujourd'hui, c'est d'améliorer les conditions de logement des jeunes et des étudiants. Un chiffre qui est assez intéressant, ou du moins un constat qui est assez frappant, c'est de se rendre compte que les logements en tout cas qui sont insalubres sont généralement, ce qui paraît logique, des logements qui consomment beaucoup, des logements énergivores. Or, un logement énergivore, c'est un logement qui ne respecte pas la planète, mais c'est également un logement avec des factures d'électricité et de gaz importants. Or, si on lutte contre les logements insalubres, on donne du pouvoir d'achat aux jeunes en limitant des factures qui sont déjà très importantes.
Et quels sont les pouvoirs de la municipalité pour lutter contre ces logements insalubres ?
Il y a un certain nombre de dispositifs sur les règles urbaines qui peuvent être mises en place, justement, dans le cadre d'une révision du PLU ou sur un certain nombre d'autres dispositifs. On peut se féliciter. On peut en tout cas, je pense, quelles que soient les sensibilités, se féliciter du travail du gouvernement sur la loi Allure, qui prévoit justement des mesures sévères à l'égard de ces, ce qu'on appelle ces marchands de sommeil, c'est-à-dire des gens qui savent très bien qu'au-delà de toutes les lois, au-delà de toutes les réglementations, se permettent de louer des logements dans des conditions qui ne sont pas humaines et qui ne sont pas acceptables. Donc la municipalité aura des moyens, qui sont des moyens législatifs et réglementaires qui ont été accordés récemment et avec d'autres moyens existants au niveau de la collectivité et de l'agglomération particulièrement.
Mais vous parliez tout à l'heure de pouvoir d'achat. Est-ce que concrètement la mairie peut mettre en place des aides pour accéder à ces logements du parc privé ?
Il y a un certain nombre de dispositifs que l'on étudie. J'ai rencontré la FEV, que vous connaissez sûrement. On étudie la mise en place d'un certain nombre de logements sociaux, donc des bailleurs sociaux, à disposition d'étudiants en contrepartie d'un accompagnement des Angevins dans le quartier, faire vivre la vie de quartier. Donc on étudie les différentes possibilités. Mais comme je vous le dis, l'élection est récente, les dossiers sont nombreux, les préoccupations et les sujets sont importants, et il nécessite qu'on prenne le temps de les étudier en profondeur. Donc on va expérimenter, on va réfléchir, on va étudier, on va analyser, et ensuite on va décider. Mais ça serait précipité de vouloir faire des effets d'annonce, alors qu'aujourd'hui, il faut d'abord prendre le temps de regarder le constat et les possibilités qui s'ouvrent à nous, avec l'ensemble des acteurs. Et sur le sujet du logement, je sais que Roch Brancourt et Daniel Di Micoli, qui respectivement à la ville et à l'agglomération sont en charge du logement, seront des atouts non négligeables pour prendre justement ces décisions.
Florian Santino, en début de saison, dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, nous avions reçu Christian Godefroy, des Restos du Cœur, qui nous expliquait que de plus en plus d'étudiants fréquentaient le Resto Bus. Qu'est-ce que peut faire la mairie pour aider les jeunes en grande difficulté, comme c'est le cas de ces personnes ?
On a un certain nombre de dispositifs avec le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale. Malheureusement, cette paupérisation, en tout cas cette pauvreté qui touche aujourd'hui les jeunes, mais qui touche également les personnes en situation, en situation difficile, je pense par exemple aux personnes âgées isolées, cette pauvreté malheureusement touche tous les acteurs, la jeunesse en fait partie, il faut donc qu'on y apporte des mesures précises. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a des dispositifs qui existent. Sauf que la nouveauté, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce que des jeunes sont obligés, par exemple, d'avoir un job, de faire les études à côté, et malheureusement n'ont pas la possibilité de pouvoir vivre décemment. On a parlé de la condition de logement, on a parlé du pouvoir d'achat. Tout cela doit se faire dans un cadre global. On ne peut pas mettre en place des mesures spécifiques, alors que c'est l'ensemble de la politique globale qui doit être revue. Donc comme je vous l'ai dit, il faut prendre le temps de pouvoir analyser chacune des situations. Le CCAS va mettre en place un certain nombre de dispositifs. Je pense par exemple à l'incitation et au financement pour les personnes et les jeunes en situation de difficulté économique du permis de conduire, parce que la mobilité c'est essentiel pour pouvoir trouver un emploi et donc pour pouvoir avoir une dignité, parce que sans emploi on n'a pas de dignité. Donc c'est nécessaire aujourd'hui de pouvoir donner des leviers pour favoriser l'accès à l'emploi. C'est la première des priorités. Et c'est ce qu'a dit Monsieur le maire, c'est ce qu'a dit Christophe Béchu, le candidat. L'emploi, c'est la première des nécessités et ça sera également notre priorité concernant les jeunes.
Florian Santino, je vais vous donner un exemple parisien. À Paris, un fonds d'aide aux jeunes parisiens a été mis en place en 2010 pour aider les jeunes parisiens de 18 à 25 ans en difficulté pour un montant de 2 700 € sur une période de 3 ans. Ça se fait ailleurs, donc ça se fait à Paris. Est-ce que c'est dans les cartons à Angers ? Est-ce que vous y pensez ? Est-ce que vous connaissiez déjà l'existence de ce fonds ?
On a effectivement un certain nombre d'initiatives. Ça peut être sous forme de fonds, ça peut être sur des subventions ou des allocations d'urgence. Il y a différentes possibilités qui s'ouvrent à nous. Ce qui est certain, c'est qu'il faut regarder où ça marche. Il faudrait voir quels sont les résultats sur Paris. Je pense que la vraie solution, c'est effectivement déjà d'avoir un matelas de sécurité pour ces personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations de vie difficiles. Mais l'objectif, c'est également de trouver un tremplin. Parce que on peut pas rester éternellement accompagné par la collectivité, parce que il y a un moment ou un autre où il faut donner l'opportunité aux gens de pouvoir réussir. Donc il faut effectivement ces matelas, comme vous l'avez dit. Mais il faut également qu'on soit capable d'innover et de pouvoir offrir un tremplin. Et ce tremplin, ça reste l'emploi.
Et je reviens sur ce matelas quand même. Est-ce que c'est dans les cartons à la mairie d'Angers?
Ce matelas, on va l'étudier en profondeur. Je peux pas aujourd'hui vous donner une réponse. Il faut d'abord que, avec l'ensemble des acteurs, que ça soit l'élu en charge de la solidarité ou le maire, on puisse prendre le temps de regarder. Ce qui est certain, c'est que cette idée, on l'a évoquée, qu'on est en train de l'étudier, mais il faut regarder également le coût, parce que lorsque l'on a une ville où on a un habitant sur deux qui a moins de 30 ans, et lorsque l'on a 33 000 étudiants, il faut imaginer que ce type d'aide ou de ce type de fonds doit avoir une réserve importante et conséquente, parce que malheureusement, il serait discriminatoire et il serait gênant quand même de donner une aide à certains et pas à un autre parce qu'il y a des limites budgétaires. Donc il faut pouvoir prendre des décisions cohérentes et qui s'appliquent à tout le monde sans discrimination et sans différence.
Mais c'est en réflexion, en cours de réflexion.
Bien entendu que c'est en... Mais pas uniquement ce fonds d'aide au projet jeune. Il faut également, ou ce fonds d'aide à l'accompagnement jeune. Il faut étudier l'ensemble des possibilités. Je pense qu'il n'y a pas une solution. Je pense qu'il y a différentes hypothèses et opportunités à essayer de développer.
Vous êtes très actif sur Twitter, Florian Santino, et vous y postez certaines de vos sorties culturelles. On change un petit peu de sujet. Dernièrement, il y a eu par exemple le Grand Prix d'orgue Jean-Louis Florence à la cathédrale, vous y étiez. L'Expo Combass au Grand Théâtre, vous y étiez.
Grand Écart.
Au Grand Théâtre?
Non, le Grand Écart entre Combass et oui. Le Printemps des Orgues.
Je sais que vous n'êtes pas adjoint à la culture ou aux musiques actuelles. Pour autant, est-ce que vous arrive de fréquenter la SMAC, le Shabada ou les cafés-concerts?
Alors, les cafés-concerts, de temps en temps. Le Shabada, lorsque j'ai le temps. Je vais être amené, à mon avis, du fait de mes nouvelles fonctions, de rencontrer un certain nombre d'acteurs du Shabada. Il y aura éventuellement, on est en train de réfléchir à effectuer un événement sur la musique contemporaine au Shabada. On étudie l'ensemble des possibilités. Effectivement, comme tous les jeunes, j'aime bien pouvoir prendre le temps de me retrouver avec mes amis devant un café ou devant un verre en écoutant de la musique. Maintenant, j'ai pas de préférence ni de lieu attitré.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer à Angers une carte culture comme il se fait à l'université d'Angers depuis la rentrée pour accéder aux lieux culturels, pour avoir des réductions sur les cinémas, à la SMAC, ce genre de choses? Est-ce que c'est envisageable un pass culture comme il se fait au sein de la région, mais qui est limité aux 15-19 ans, il me semble, qui se fasse à Angers pour les étudiants?
Ce qui est incroyable, c'est que ce matin, j'étais au conseil d'administration du Quai. Et à mes côtés, il y avait Pascal Marchand, qui est élu en charge justement de la culture. Et donc, on a évoqué cette hypothèse. On trouve que cette initiative, en tout cas le pass culture de la région, est quelque chose de formidable. Il faudrait éventuellement le développer au niveau local. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de musées qui sont gratuits sur Angers. On ne le sait pas ou on ne le sait pas suffisamment. Donc il va également falloir améliorer cette communication et travailler sur cette offre culturelle et la rendre bien entendu plus accessible aux jeunes. Le tarif du cinéma, c'est un grand débat. Aujourd'hui, les prix du cinéma, je parle pas des 400 coups, mais je parle du cinéma Gaumont, les prix sont quand même exorbitants, donc il y a une réflexion également à avoir pour permettre une démocratisation des coûts du cinéma et de la culture plus largement, même si aujourd'hui, je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits, des dispositifs qui accompagnent justement les jeunes vers la culture.
Donc ce serait envisageable, une carte comme ça qui diminue les coûts
Alors je ne sais pas si techniquement ça sera un système de carte, de passe, oui, de chéquier, voir quelles sont les possibilités, mais il est nécessaire bien entendu que la culture angevine, parce qu'on a un patrimoine riche, en tout cas que les Angevins puissent véritablement découvrir l'ensemble des lieux culturels de notre territoire. C'est une volonté et ça sera nécessairement une réalisation au cours de ce mandat.
On a bien compris, tout ça a été en réflexion, en cours de concertation.
Ça fait un peu plus d'un mois qu'on est élu. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir vous donner des décisions alors que le premier conseil municipal va avoir lieu lundi. Le premier véritable conseil municipal où des décisions d'arbitrage et financières vont avoir lieu. Donc c'est difficile aujourd'hui de pouvoir vous présenter des actes. Pour l'instant, on est plus sur une phase de réflexion et dès lundi, vous verrez, il y a des actes forts qui vont être pris. Vous pouvez voir directement l'ordre du jour sur la maison des adolescents, sur l'association A2 Habitat Jeune, sur un certain nombre de structures. Mais il faut prendre le temps de la concertation avant de prendre des décisions. Le dialogue, l'écoute avant l'action.
Florian Santino, une question un petit peu plus personnelle. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment?
En ce moment, j'écoute Radio Campus.
Non, c'est trop facile. Ça.
Non, en ce moment, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute. Écoutez, je pense que j'écoute la radio. J'ai pas forcément de musique particulière. Et puis heureusement aujourd'hui, maintenant avec les nouveaux téléphones, les nouvelles technologies, on est connecté en permanence. Donc j'ai absolument aucun titre à titrer. Excusez-moi du mauvais jeu de mots, mais non, j'ai pas de musique particulière. Récemment, j'écoutais le Printemps des Orgues, mais je pense que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus contemporain aujourd'hui.
Effectivement. Est-ce que vous connaissez François and the Atlas Mountains?
Du tout.
Ben, vous allez le découvrir dans le sous-marin tout à l'heure, puisqu'on l'a eu au téléphone. Il est en concert dans la région par deux fois ce week-end. On l'a eu au bout du fil. On entendra ça juste après cette pause musicale et la chronique de Rémi. En tout cas, on vous remercie d'avoir été dans le sous-marin ce soir, Florian Santino.
Ben, merci à vous, Tiffaine. Et puis, à vous de jouer, Rémi.
Tout de suite, c'est 100 Waters avec X-Talk. C'est le sous-marin sur Radio Campus Angers, et le jeudi dans le sous-marin, avec Rémi, c'est économie.
Et oui, Tiffaine, il y a eu une première et il y aura une dernière. Je prononce ici ma dernière chronique économique sur cette radio. Combien de fois ai-je chevauché mon vélo pour sortir ma science... pour délivrer un savoir à vous, masse estudiantine de junkie de tout poil qui m'écoutiez en vous demandant « Mais comment peut-il connaître tout ça ?» Même Tiphaine le demandait.
Mais comment peut-il connaître tout ça ?
Excellente question, Tiphaine. Quelle meilleure conclusion alors qu'un retour aux sources ? Surtout que je ne me suis mis à écrire cette chronique que mardi, en n'ayant toujours pas trouvé... Mais oui, Tiphaine. En n'ayant toujours pas trouvé le thème approprié au milieu des déménagements et des soirées où je fus entraîné bien malgré moi. J'aurais pu bien sûr vous fournir une ultime tranche du pavé de Thomas Piketty sur les inégalités et la place du patrimoine dans la marche, ou le recul, c'est selon, de nos sociétés. Mais mes quatre auditeurs, les effectifs ont doublé depuis la semaine dernière, se seraient lassés. Une de mes sources fut donc Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. Allez l'acheter, promis, je ne vous en parlerai plus. Deuxième source, et non la moindre, le magazine Alternatives économiques. L'histoire de ce magazine est intéressante, et ça va meubler un peu la chronique. C'est l'histoire d'un mec, Denis Clerc, qui dans les années 80 en a assez d'entendre le « There is no alternative » proclamé par Margaret Thatcher, alors Premier ministre conservatrice du Royaume-Uni. En gros, le ton de l'époque, c'était « Mais déréguler, laissez vivre les forces vives du marché, elles feront bien mieux que les États, c'est ringard tout ça. Laissez les riches s'enrichir et ça bénéficiera à toute la société. » C'est ça. Et laissez les pauvres s'appauvrir aussi. Ça c'est bizarre, on l'entend moins. Bon, revenons à Denis Clerc. Au cœur de ce concert de louanges pour le libre marché et la concurrence, il décide de fonder un magazine qui, lui, proposera des alternatives à ce pseudo-modèle. Ce sera Alternatives économiques. Et pour bien inscrire cette initiative dans une autre voie, l'entreprise qui édite le magazine sera une SCOP, une forme de gouvernance où le pouvoir de décision dans l'entreprise appartient aux salariés. Au début, le journal, ce n'est que quelques pages sur un mauvais papier. Mais c'est un succès. Pédagogique sans être démagogique, piquant sans être pédant, le journal connaît un véritable succès. Conseillé par de nombreux professeurs de sciences économiques et sociales, les élèves ou les parents d'élèves se réabonnent. Et c'est parti. Le magazine grossit jusqu'à se constituer d'une centaine de pages. Et aujourd'hui, l'entreprise éditrice publie également une revue trimestrielle de recherche en sciences économiques, l'économie politique. Alternative économique fonctionne donc beaucoup mieux que certains journaux économiques qui périclitent, confère la Tribune. Une initiative à soutenir donc. Mais l'écriture de ces chroniques n'aurait également pas été possible sans...
Et les remerciements qui arrivent...
Tiphaine ose une critique que j'ignore totalement en chargeant mon fusil. Ce travail hebdomadaire n'aurait donc pas été véritablement complet sans les vérifications rigoureuses de Jacques Chambrier, mon professeur d'économie, celle de Gilles Mathieu, mon professeur de lettres dans le rattrapage d'une chronique en alexandrin sur le projet d'union bancaire en Union européenne.
Joli, joli d'ailleurs.
Oui, ah oui, c'était magnifique. Mais c'était
merci
aussi
à lui.
Ah oui, il va rougir. Merci à tous mes camarades de classe et amis qui m'ont encouragé dans la tenue de cette chronique. Merci aussi à mon momo.
Oh.
Eh ben oui, comptable de métier, toujours prompte à m'expliquer les vicissitudes de tel ou tel impôt, CSG, impôt sur le...
Chic.
Ah, magnifique. Voilà, je vous laisse. À bientôt tout le monde.
Je suis un petit peu ému. Merci Rémi. Voilà. Il est mignon, en plus Rémi, il dit merci. Il fait la une des magazines, passe sur les radios et dans tous les festivals. François and the Atlas Mountains, c'est un peu un des groupes du moment. Ce week-end, il passe deux fois dans la région. Ils seront d'ailleurs demain à Laval pour les Trois Éléphants et samedi à Nantes pour le festival Indigène. Il ne nous en fallait pas plus pour lui passer un coup de bigophone. Bonjour François-Marie.
Bonjour.
Vous êtes le François de François and the Atlas Mountains. En quelques mots, c'est qui les Atlas Mountains ?
Eh bien, j'ai beaucoup de chance. C'est un groupe de jeunes musiciens très talentueux que j'ai rencontrés sur la route. Il y a un Écossais, il y a un Charentais, un Landais et un Parisien. Et tous sont vraiment tous passionnés de musique. Donc voilà, on est un groupe de jeunes gens qui font converger leurs intérêts musicaux.
Un groupe qui s'est rencontré, si je ne me trompe pas, en 2005.
Ouais, c'est ça.
Quel chemin vous diriez avoir parcouru depuis 2005 jusqu'à Piano Ombre, le dernier album en date cette année ?
Eh bien, ça a été très. Il a fallu être très patient. Il y a eu plein de petites tournées bricolées. Il y a eu plein d'albums autoproduits. Il y a eu beaucoup de revirements. Et puis, petit à petit, on a réussi à sortir des albums qui étaient de plus en plus costauds et qui ont fait de plus en plus parler d'eux. Donc on arrive à en vivre depuis 3-4 ans maintenant. Donc voilà, on est assez contents.
Dans une interview aux Inoccupables lors de la sortie du dernier album, donc Piano Ombre, vous disiez avoir traversé des moments vraiment difficiles, une série de doutes, de questionnements. Dans ces cas-là, la composition, la musique, c'est un remède ?
Oui, c'est comme une zone, une espèce de matière qu'on crée, où le temps disparaît, et puis le temps et les problèmes disparaissent. Voilà, donc c'est un moment dans lequel on peut prendre énormément de recul et relativiser. On crée un espèce d'espace hors du temps.
Votre musique, en tout cas sur le dernier album, c'est très marqué par la nature, avant aussi. Et pour Piano, c'est surtout le bois. Comment la forêt des Landes, dont vous êtes familier, a participé à votre composition, à votre approche de cet album ?
Ça a été un espace de repos, de recueillement, un endroit où je venais chercher un peu le calme, un endroit où je relativisais, un endroit où j'étais submergé par la beauté, la densité de la nature, etc. Donc c'est une source d'inspiration. Et puis on a aussi utilisé la forêt des Landes pour la pochette de l'album, avec cet alignement d'arbres sur lesquels on a peint un cercle rouge.
Piano Ombre, vous le disiez tout de suite, c'est un gros succès, à la fois critique, mais aussi un succès public avec le titre, le single La Vérité. C'est le single qui prend un peu la suite des succès des singles précédents, comme La Piscine.
Allons à la piscine demain, je passe te prendre ou bien tu viens. Nous passerons par quatre chemins, avec toi je sais bien.
Nous soyons les plus beaux.
Soyons les plus, soyons les plus beaux. Soyons les plus, soyons les plus beaux.
Ça fait quel effet, 9 ans après la création du groupe, d'avoir un tel écho ? Est-ce que ça conforte ?
Oui, ça réconforte, ça nous permet de souffler un peu, de baisser la garde un peu, de se sentir un peu moins sur le qui-vive tout le temps, et d'avoir l'impression d'être moins... On a l'impression de participer un peu plus au monde aussi quand on fait un morceau comme ça qui est plébiscité, que les gens ont envie d'écouter, ont envie de passer à la radio. On a l'impression d'avoir un peu trouvé une place dans le monde, c'est bien, ça fait plaisir.
Et quel est le succès qui vous importe le plus ? C'est le succès critique ou le succès public ?
C'est plutôt le succès public et... Donc voilà, j'ai hâte de faire les concerts. Pour l'instant, les retours des concerts ont été assez encourageants. Donc je suis content de continuer à rester sur la route dans les mois qui viennent pour goûter un peu plus de l'effet que produit notre musique sur les gens et non pas sur les critiques et les journalistes seulement.
François, vous êtes parti vivre à Bristol il y a une dizaine d'années, en 2003. Vous êtes, je crois, le premier à signer sur le label anglais Domino Records. Quelle importance a eu la musique anglo-saxonne dans votre travail ?
Eh bien, les anglo-saxons sont très peu théoriques vis-à-vis de leur musique et très peu conceptuels. Il y a beaucoup de feeling dans ce qu'ils font. Et puis, j'ai habité à Bristol aussi, dans un quartier jamaïcain, dans lequel il y avait énormément de groupes qui tournaient dans les clubs. Il y avait beaucoup de musique électronique qui était inspirée de la musique jamaïcaine, tout ça. Et donc c'était un vrai vivier pour moi d'inspiration et en même temps un rapport à la musique qui était complètement décomplexé où l'intérêt principal c'était de passer des bonnes soirées quoi et puis d'être s'enivrer de musique plutôt que de devoir, comme j'avais l'impression en France, devoir passer par des circuits très traditionnels pour pouvoir exposer sa musique.
Est-ce qu'on manquait de pop avant votre arrivée ?
Non, pas du tout. Toujours ce qu'il faut en France, mais c'est juste que la tension est... Bon, une fois, les projecteurs sont braqués plutôt sur ceux qui répètent des formules plutôt que sur ceux qui prennent des risques artistiques.
Et qui est-ce qui prend des risques artistiques en ce moment ?
Bon, y a beaucoup de gens. Pour les plus connus, je trouve qu'il y a Bertrand Belin qui fait une musique douce et poétique sans chercher à en mettre plein la vue. À Lyon, il y avait tous les gens de clapping musique avec des groupes comme François Viro, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui font plein d'expérimentations. Et il y a le Colisée c'est plutôt sur Bruxelles, à côté de Paris, les Candides, les Vasco, etc. Il y a plein de gens qui font des choses intéressantes.
Est-ce que vous considérez que vous faites partie d'une nouvelle famille en France avec Florent Marchais ou Christine and the Queens, des gens comme ça, ou est-ce que vous réfutez tout lien de cousinage ?
Non, je pense qu'on fait partie. Je fais partie de la même génération. Je parlerai pas de famille parce que c'est pas des gens que je connais, c'est pas des gens avec qui je passe du temps. Mais moi, je pense qu'on se retrouvera dans notre génération, dans les la culture dans laquelle on a été baigné quand on était enfant, etc. À l'époque, on était perméable, beaucoup plus perméable et beaucoup plus sensible. Et donc, je pense que ouais, on a sûrement eu des influences similaires.
Est-ce que vous pouvez nous parler des vôtres, celles qui ont bercé votre enfance, justement ?
Ouais. Bah, je pense qu'effectivement, il y avait toute une culture populaire qui était celle des années 80, avec l'arrivée de la musique électronique dans les productions comme celle de Michael Jackson, par exemple, qui commençait à incorporer des boîtes à rythme, tout ça, avec quand même... on est quand même une génération charnière, un monde qui existait sans Internet. Moi, je me suis connecté à Internet pour la première fois, j'avais seulement 18 ans. Donc j'ai quand même eu une approche de la musique qui était très sensorielle et puis basée avec beaucoup d'inconnus. C'est-à-dire je connaissais pas l'identité des groupes que j'entendais, j'avais très peu d'informations sur tous les groupes que je voyais, donc l'image était beaucoup moins importante, j'ai l'impression. On se laissait beaucoup plus séduire par des sons, la magie de la musique sur cassette par exemple aussi. On pouvait copier de la musique sur cassette, donc il y avait un rapport très physique à la musique aussi. Avec des supports comme les cassettes et les vinyles. Donc voilà, je crois qu'on voilà à cheval entre la musique électronique et dématérialisée qui s'est produite après dans les années 2000. Et puis avant ça, on a quand même eu un rapport assez vintage à la musique.
Et vous êtes nostalgique de cette époque-là ?
Non, enfin disons que je suis comme n'importe quelle personne est nostalgique de son enfance. Les gens qui ont 60 ans maintenant sont nostalgiques du jazz de leur enfance, j'en sais rien. Mais je n'envie rien à cette époque, puisque de toute façon l'humanité et la musique qui l'accompagne évoluent, et chaque période est bonne à saisir. Il y a des très bonnes choses qui se font maintenant.
Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ?
En ce moment, j'écoute beaucoup de Alice Coltrane, qui était une musicienne de jazz qui faisait beaucoup de musique un peu répétitive et comment dire inspirée, avec beaucoup de chants un peu spirituels. Et puis en production plus moderne, j'écoute Manolo Toff, c'est la espèce de minimal, de musique électronique un peu minimale.
François-Marie, vous serez ce week-end à Nantes au festival Indigène. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre sur scène ?
À quoi il faut s'attendre ? Il faut s'attendre à 5 personnes qui expérimentent un peu avec leur chanson, qui essayent d'étendre un peu le temps de leur musique, et puis qui cherchent aussi à imbriquer leur son ensemble. Voilà, donc comme une espèce de floraison, une espèce de jardin botanique de musique.
Et puis une dernière question, est-ce que vous trouvez le temps de continuer à peindre un petit peu ?
Ouais, un petit peu, là, ça, j'ai repris un petit peu. Récemment, dans le van, on a un van avec une espèce de petit espace sur l'allée centrale. Et donc je peux m'asseoir là et puis dessiner mes collègues, donc j'ai fait ça pas mal récemment.
Merci beaucoup François-Marie d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Radio Campus Angers.
Plaisir.
Et puis donc à ce week-end à Nantes.
Ouais, merci.
François Andy Atlas Mountains, qui sera donc demain soir à Laval pour le festival Les Trois Éléphants et samedi à Nantes pour le festival Indigène. Radio Campus vous fait gagner une place par soir de festival. Ça se passe sur le compte Twitter de la radio, @campusangers. Et tout de suite, si vous n'en avez pas eu assez, on vous remet un petit coup de François Andy Atlas Mountains, Summer of the Heart.
Streets, London town is the city.
sea. Voyage to the summer.
Écoutez le sous-marin sur Radio Campus Angers. Le jeudi, on retrouve Aminata qui brosse l'actu à travers les journaux avec son périscope. Cette semaine, elle est enregistrée, elle est dans la boîte.
À 3 jours des élections européennes, les journaux décryptent les sondages, abordent les grandes lignes et ne manquent pas de souligner les imperfections de l'Europe. Les quotidiens français expriment leur avis à propos de l'Europe. Ouest-France semble se positionner contre. Je cite, « L'Union peut paraître trop large pour que l'énergie s'y concentre suffisamment. Les motivations de chacun peuvent être trop diverses. » Le Figaro surenchérit et tire un bilan très mitigé du mandat dernier, mais très vite, il énonce les solutions pour rebondir. La défense des citoyens était jusqu'ici dramatiquement négligée. Si aujourd'hui nous n'avons pas réussi à convaincre, c'est qu'il est nécessaire d'établir de nouvelles règles de fonctionnement et d'instaurer d'autres débats pour changer les rapports de force au cœur du nouveau pouvoir que nous installerons. Mieux vaut s'en prendre à nos défaillances qu'à de supposées ignorances. Cette élection est marquée par 2 montées, celle du Front National et de l'abstention qui nous rappelle très justement les municipales. Le parti d'extrême droite emmené par le clan Le Pen continue son ascension fulgurante, ce qui fait réagir les éditorialistes. Des élections sous pression pour la Dépêche, l'opinion décrit ce succès comme le séisme annoncé que personne ne veut voir. Ce succès, il faut croire que c'est la présidente du FN qui en profite le plus. Marine Le Pen se laisse offrir le luxe d'une couve du Time, des portraits et des interviews démultipliées à l'infini, chez nos voisins européens, une information que la Nouvelle République relaie. Mais ce qui inquiète les journaux, c'est l'image dévoilée contre son gré d'une France qui porterait les couleurs de l'extrême droite. Si les sondages se confirment, le gouvernement pourrait subir une double humiliation, exhibant aux yeux des pays membres l'affaiblissement du pouvoir en place. Pour le Midi Libre, ce serait de donner à l'Europe l'image la plus ringarde possible pour dissuader les électeurs de se rendre aux urnes. Selon le Sud-Ouest, c'est le plus mauvais signal adressé à l'Allemagne, notre principal partenaire. L'Allemagne, notre partenaire, notre exemple. Les journaux comparent la France à l'Allemagne, François Hollande à Angela Merkel. Le Figaro en est l'exemple type. Il dit « Contrairement aux Français, en pleine crise de confiance vis-à-vis de l'Europe, les Allemands voient surtout les avantages d'une union dont ils détiennent solidement les rênes. Loin de remettre en cause un système dont nous critiquons le déficit démocratique, ils s'en approprient le fonctionnement, en commençant par le Parlement européen. » Deux journaux justifient l'abstention prévue par le manque d'investissement des médias français dans cette campagne. L'Éclair des Pyrénées dit « Le désintérêt des électeurs français pour ce scrutin est d'autant plus grand que très peu de débats ont précédé cette élection européenne. Et le Midi Libre renchérit. L'Union européenne ne fait pas recette en France. Alors que les spots publicitaires et les débats politiques animent les médias dans la plupart des autres pays membres, la campagne pour le scrutin du 25 mai est d'une morosité affligeante dans l'Hexagone. » La dépêche du Midi, emmenée par Jean-Claude Souléry, conclut avec beaucoup de pessimisme. Bref. L'alternative apparaît désespérante. Le renoncement ou l'extrémisme, l'indifférence ou le suicide, comme si notre vieux continent s'était donné rendez-vous dimanche prochain pour saccager la fragile unité.
C'était Aminata dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Allez, avant de vous quitter, voilà l'agenda de votre soirée angevine. Au bar du quai à 20h30, soirée Balkan Beat avec le collectif Intérieur Moquette. Trois lives au T-Rock à partir de 21h30 avec Fumetu, De La Cave et Free Pulse. Green Cross et Red Strike Sound, putain c'est dur ce soir, sont au Jacaré à 22h, je parle très mal anglais. Voilà, il est l'heure de débrancher les hydrophones, c'était notre dernier jeudi de la saison. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.radiocampusangers.com ou en rediff demain dès 13h sur nos ondes tout de suite. Sur le 103 FM, on retrouve IRM, l'émission de décortiquage musical. On vous laisse avec la bulle sonore. Hier, c'était la dernière de l'artichaut de la saison. Zazie a balancé en pagaille ce qu'elle avait appris cette année et ça parle beaucoup d'animaux. Passez une très bonne soirée sur Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve demain à 19h.
Allez, bisous.
Du coup, pour ce soir, comme on est censé blablater ensemble pour se dire au revoir, si j'ai bien compris, j'ai pas réellement de sujet comme d'habitude, mais je me suis dit que comme c'était la fin de l'année, bah, j'allais faire une mini compile de des choses un peu amusantes des choses un peu amusantes que j'avais appris cette année. Et donc il y a très peu de temps pour rester dans la musique. Et mon père m'a parlé d'un monsieur qui s'appelle Charlie Mingus, je ne sais pas si vous le connaissez, qui était donc un contrebassiste et qui est né en 1922 et qui est mort en 1979 au Mexique. Et le fait est que le jour de sa mort, donc il avait 56 ans, et ce jour même, 56 cachalots se sont échoués sur les côtes mexicaines.
Waouh!
Voilà. Je trouve ça très beau.
Alors ça.
Donc du coup, il y a un petit insecte qui s'appelle la douve de foie. Et donc cette douve de foie est obligée de pondre, on ne sait pas pour quelle raison, dans le foie de mouton. Donc. Et donc pour arriver à ça, les œufs donc à la base sont dans le foie de mouton. Ensuite, ils ressortent par je ne sais quel miracle du mouton et arrivent donc au sol. Et à ce moment-là, les escargots viennent manger les excréments du mouton. Par la suite, les fourmis mangent les excréments d'escargots. Et pour finir, c'est là que c'est le plus intéressant. Ces douves de foie donc éclosent à ce moment-là et se dispersent dans la fourmi et prennent l'intégralité du contrôle de la bestiole. Pour la faire sortir de la fourmilière dans les heures froides, ce qui est complètement contre nature. Et donc, ce qui permet ainsi à la fourmi d'aller se réfugier sur la cime de l'herbe et donc se faire grignoter par un mouton et ainsi de suite. Une petite dernière, du coup, qui va très bien s'enchaîner sur ce que vous venez de dire. Rien ne se perd, tout se transforme. Pas exactement. Parce que j'ai appris ce soir même que...
C'est des directs, comme vous voulez.
J'ai appris ce soir même que les galaxies, donc, toutes les galaxies, tournaient autour, à chaque fois, d'un trou noir. Et ça, je le savais pas. Et à part ça, donc, toutes les galaxies tournent autour de ce trou noir. Et donc, ce qui peut être assez, assez flippant, parce qu'au final, ça veut dire que si on tourne autour, on va se faire absorber par ce truc. Et... mais en fait, la matière se fait absorber, mais l'info de la matière reste pour l'éternité sur la surface du trou de ver.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live.
live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.